Voilà que nous sommes quasiment à la fin de l'année liturgique et que la liturgie nous donne un certain nombre de textes qui nous parlent du jugement, de la venue dans la gloire, de l'entrée dans le royaume. Et peut-être est-il bon de replacer quelques étapes de ce dernier grand discours de Jésus avant la Passion. En effet, dimanche dernier, avec la parabole des vierges folles et des vierges sages, on nous invitait à veiller, à être prêts. Nous devions être prêts parce que nous ne savions ni le jour ni l'heure. Mais aujourd'hui, en nous souvenant que nous sommes appelés à être prêts, nous sommes appelés à comprendre, être prêts, oui, mais en faisant quoi ? L'objectif de la parabole de ce jour concerne l'activité durant cette veille. Il faut veiller, on a compris, mais en faisant quoi ? Parce que on ne veille pas pour tuer le temps. En quoi consiste donc cette veille, l'activité de cette veille ? Je donne un exemple pour que nous puissions nous le représenter. Si on vous disait, si on veille à ce qu'on puisse manger à l'heure, ça signifie pas simplement « regarde ta montre pour nous dire « ah ben c'est l'heure du repas ». Veille à ce qu'on puisse manger à l'heure, ça veut dire aussi préparer le repas. On a beau avoir l'horaire, si on ne prépare rien, il ne va rien se passer. Et donc, essayons de saisir le sens de cette parabole pour saisir quelle est l'activité à laquelle nous sommes invités. On a un riche maître de domaine et il va y avoir deux serviteurs qui vont être loués, tandis qu'un troisième serviteur va être jeté dehors. Alors si le sens de la parabole, c'était simplement les travailleurs seront récompensés et les paresseux punis, ce n'était vraiment pas la peine que le Verbe de Dieu s'incarna et mourut sur la croix. Ça, on aurait pu le deviner tout seul. Donc il faut y regarder de plus près si on veut trouver le sens de cette parabole. Le troisième serviteur met en accusation le maître. Eh bien, menons l'enquête pour savoir ce qu'il en est. En quoi consiste l'accusation ? Premièrement, le serviteur dit « Ce maître veut tirer profit de ma peine. » Ben oui, il travaille, il veut récolter là où il n'a pas semé. Il veut tirer profit de ma peine, de mon travail, de ma sueur. Deuxième élément, pourquoi se donner du mal pour quelqu'un qui n'en a pas besoin ? Vous savez, un talent, c'est une unité de mesure, ça représentait 26 kilos. Donc il lui a donné un talent d'argent, ça veut dire qu'il lui a donné 26 kilos d'argent, ça correspond à peu près à 6000 pièces d'argent, c'est donc à peu près 15 ans de salaire. C'est un maître qui peut se permettre de remettre comme ça 15 ans de salaire à quelqu'un. Il est quand même vraiment très très riche. Est-ce que ça motive de travailler pour quelqu'un qui n'en a pas besoin ? Et puis, sa réponse face à la mission confiée, eh bien, non, je la ferai pas. Voilà ton bien, je ne t'ai rien volé. J'ai même pris toutes les précautions légales. En effet, à l'époque, quand on confiait un bien, si jamais on l'avait enfoui dans la terre pour le protéger, s'il était volé, notre responsabilité n'était pas engagée. Je l'avais pourtant mis dans la terre pour le cacher. Quelqu'un l'a trouvé, c'est pas de chance, mais en tout cas, c'est plus ma responsabilité. Tandis que si on l'avait mis dans sa maison, dans un meuble, voire même dans un mur, si quelqu'un l'avait trouvé et volé, notre responsabilité serait engagée. Donc cet homme s'est dit, je ne ferai pas travailler cette somme qu'on m'a confiée, et en plus, je vais dégager ma responsabilité. Voilà, tu as ton bien. Eh bien, regardons les faits. Est-ce que l'accusation de ce serviteur tient la route ? Regardons le comportement du maître. Contrairement à ce que pense le troisième serviteur, le maître n'a pas simplement confié ses talents, ces espèces de lingots d'argent à ses serviteurs pour les reprendre ensuite. À chaque fois que nous entendions le mot « confier » dans l'Évangile, il s'agit en fait d'un verbe grec « paradidomi », transmettre, livrer. Or, c'est ce verbe qu'on utilise quand le roi qui meurt transmet le pouvoir à son fils. C'est ce verbe que Jésus utilise aussi pour dire qu'il va livrer sa vie pour ses amis. Ce sont des usages où, à chaque fois, le don qui est fait n'imagine pas être repris. C'est un don véritable et définitif. Et vous connaissez bien la formule enfantine, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Le maître a vraiment remis son bien, a vraiment remis de ses possessions à ses serviteurs, sans intention de les reprendre. Oui, quand bien même il leur demande de rendre compte de l'usage, ils n'avaient pas l'intention de le reprendre. Le signe en est qu'il ne reprend ni au premier serviteur, ni au second, les talents qu'il avait confiés, pas plus qu'il ne leur prend ce qu'ils ont gagné avec. Alors ça nous pose une question, puisque l'intention du maître n'est pas l'appât du gain. Il n'a pas cherché à récupérer ni le principal, ni les intérêts. Alors c'est quoi son intention ? Le jugement que le maître porte sur les deux premiers serviteurs nous le dévoile. « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Alors passez outre l'étonnement que, dans leur cas, 30 ans ou 75 ans de salaire puissent être peu de choses pour ce maître, on a un aperçu de sa richesse, on s'aperçoit que le maître a en fait donné l'occasion aux serviteurs de faire leur preuve. Il leur a donné l'occasion de grandir dans l'exercice de la responsabilité. Il leur a donné d'exercer leur capacité à faire fructifier le bien. Il a exercé leur capacité à faire fructifier le bien possédé. En définitive, il veut leur confier encore plus. Et à vrai dire, non pas confier, il veut leur donner, il veut leur transmettre. Il veut leur partager encore plus. Et ce qui est peut-être le plus saisissant, c'est que ce ne sont pas seulement des biens matériels qu'il veut leur partager. Il veut leur partager la joie de son cœur, sa propre joie. Entre dans la joie de ton maître. Derrière ce partage des biens, qu'ils soient matériels ou spirituels, derrière ce partage de tous les biens, donc, on peut entendre une autre phrase de l'Évangile. « Tout ce qui est à moi est à toi. » Tout ce qui est à moi est à toi. Vous vous souvenez, c'est la phrase du père du fils prodigue. C'est la phrase que ce père dit au fils aîné, celui qui était resté, « Mais tout ce qui est à moi est à toi. » Mais c'est aussi la phrase de Jésus avec son père, « Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. C'est que la vie divine, c'est-à-dire la vie du royaume des cieux, le paradis, c'est ce partage total, c'est cette communion des biens, du bien. Et c'est à cela que le maître vise, en voulant faire partager à ses serviteurs non pas seulement ses biens matériels, mais le bien de son cœur, sa joie. Jésus nous donne cette parabole parce que Dieu veut nous introduire à partager véritablement toute sa vie. On est bien loin d'un maître âpre au gain. L'intention finale du maître et donc de Dieu, un partage de la totalité des biens, donne sens au test des serviteurs. L'exercice de la capacité à faire fructifier le bien, à le diffuser en quelque sorte, vont-ils accepter de se rendre aptes à la communion du bien, à la diffusion du bien ? Dès l'Antiquité, il y avait cette formule « le bien est diffusif de soi ». C'est un mot que l'on retrouve chez Denis l'Aréopagite. Il sera repris par saint Thomas d'Aquin, et c'est un des plus beaux principes de la métaphysique. Le bien est diffusif de soi. Le bien tend à se communiquer. Il y a un élan dans le bien pour qu'il se partage. Eh bien, le citoyen du royaume, L'homme qui entre dans le royaume, l'homme qui entre au paradis, est celui qui entre dans cette logique du don gratuit qui prolifère et fructifie. C'est pour cela que le premier adjectif employé par le maître n'est pas serviteur efficace, mais serviteur bon. Serviteur bon. Serviteur d'une bonté reçue gratuitement, assurément, mais développée largement. Telle est la vie divine, telle est la vie du royaume. Le don du bien total qui nous est fait et qui est appelé à être reçu pour être partagé. Et vivre dans le royaume, c'est à la fois cette ouverture à la réception de ce bien, mais cet engagement de tout notre être, de tout notre cœur, à le diffuser, à le partager, à le faire fructifier. Telle est la vie divine, telle est la vie du royaume. Voilà pourquoi le troisième serviteur a tout faux. Le talent remis n'était pas un don au-delà de ses forces. On nous précisait dans la parabole que le maître avait donné à chacun selon sa capacité propre. Parfois, on peut être écrasé par une mission qui ne nous correspond pas, mais ce n'est pas le cas. Le maître avait tenu compte de la capacité de chacun. Aucun n'était écrasé par ce qui lui avait été confié. Mais le troisième serviteur a choisi de demeurer en dehors de la logique de la bonté. Il a choisi de demeurer en dehors, d'accepter de posséder dans le partage auquel s'ouvrait le maître. Il a choisi de vivre dans une logique de pure rétribution de la peine, du travail fourni, de l'effort, mais où la gratuité n'a pas de place. Il a choisi de voir le maître comme un homme âpre au gain, s'enrichissant sur la peine et la sueur des autres. Et même ainsi, il n'a pas été logique. Il n'a pas été logique jusqu'au bout, pas cohérent jusqu'au bout, en ne plaçant pas ce bien, ce talent d'argent, pour qu'il produise des intérêts. Son activité est stérile, et il rend le talent confié stérile. Il renie l'intention de son maître, partager sa vie qui est don, bien qui se diffuse. Il renie la réalité du bien qu'il a reçu. Et ce bien reçu, c'est la parole de Dieu, c'est les sacrements, c'est le secours de l'Église, c'est notre propre vie et la grâce du baptême, notre attention les uns envers les autres. Il a renié sa propre capacité à faire le bien, à le faire grandir. Il finit jeté dans les ténèbres extérieures, il finit jeté dans l'enfer qu'il s'est lui-même consciencieusement préparé en refusant la logique du royaume, en refusant ce qui fait le cœur de la vie du paradis. Seigneur, Maître bon et généreux, conduis-nous sur ce chemin du royaume éternel. Apprends-nous à quitter cette logique de la rétribution de la sueur versée qui nous paralyse et finalement rend stérile notre action. Convertis-nous à cette logique du bien diffusif de soi. Donne-nous de savoir, contempler, regarder le bien que tu nous as donné, le bien que tu nous sommes, le bien que nous sommes, les talents, les qualités qui sont les nôtres, pour que nous nous exercions dès à présent avec ce qui nous a été remis à vivre de la vie du royaume, de ce bien diffusif de soi, de cette vie qui finalement n'est autre que l'élan de ta propre vie. Seigneur, Maître bon et généreux, conduis-nous sur le chemin du royaume éternel. Nous avons confiance que le talent que tu nous remets n'est pas au-dessus de nos capacités, que nous pouvons oser vivre, oser le faire fructifier, et que ce sera le chemin pour partager ta propre joie. Amen.